Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Fin de l'assemblée de la ROACO, la réunion des œuvres pour l'aide aux églises orientales. Ses membres ont été reçus par le pape qui a lancé un appel en faveur de la Terre Sainte. Le pape qui a également évoqué la Syrie. La Syrie qui a nourri nombre de conversations à Rome. Nous parlerons du rôle de passerelle que les chrétiens peuvent jouer entre les deux camps qui s'affrontent dans le pays avec Mgr Zenari, le nonce apostolique à Damas. Mgr Sidrac, le patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques, évoquera une situation également abordée lors de cette réunion de la ROACO, celle des Coptes en Égypte. Le dialogue entre chrétiens et musulmans, c'est le cheval de bataille du cardinal Le Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il reviendra sur la nécessité de mieux se connaître les uns les autres. Et puis la FAO, invitée par le pape à ouvrir son cœur, on en reparle à la fin de ce magazine. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Nous allons donc consacrer une large part de notre rendez-vous à cette 86e assemblée de la ROACO, la réunion des œuvres pour l'aide aux églises orientales. Ses membres ont été reçus en audience ce jeudi matin au Vatican par le pape François, qui est revenu sur le devoir de charité des chrétiens. Le pape a invité la ROACO à continuer son œuvre intelligente et prévenante dans la réalisation de projets bien coordonnés et pesés, des projets qui sont le signe de l'amour de Dieu qui constitue l'identité chrétienne. Mais au-delà de ce rappel, c'est bien la situation concrète sur le terrain, principalement la Syrie et la Terre Sainte, qui a été abordée par le pape qui se fait le porte-voix des préoccupations de toute la curie. Les précisions de Jean-Baptiste Cocagne.
Que l'on mette fin à la situation d'insécurité et de violence qui semble interminable et qui n'épargne ni les innocents ni les plus démunis en Terre Sainte. C'est l'appel lancé par le pape François aux responsables des peuples et des organisations internationales, aux croyants de toutes les religions et aux hommes de bonne volonté. Le pape a également demandé de ne pas oublier les réfugiés et les personnes déplacées, toujours plus nombreuses, et de faire tout ce qui est possible pour soulager les importants besoins des populations touchées, en particulier les populations syriennes. Une préoccupation que partage également le cardinal Sandri, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Dans une interview accordée à Radio Vatican, il affirme clairement que le Saint-Siège agit avec discrétion et réserve via sa diplomatie. Il rappelle avec force que le maintien d'une dictature n'est pas une bonne solution et que seul compte la démocratisation de la société syrienne où tous puissent participer au bien du pays. Il appelle ainsi de ses voeux une constitution, résultat d'une large entente qui garantisse à chacun l'égalité devant la loi, quelle que soit sa religion. Un texte, et il n'en doute pas, qui sera soutenu par les chrétiens de Syrie et par le Saint-Siège. L'option des armes, contraire au message de l'Évangile, est donc résolument exclue.
Jean-Baptiste Cocagne. Et à l'issue de leur assemblée, les membres de la ROACO ont publié un communiqué dans lequel ils font un tour d'horizon des nombreuses interventions et témoignages qui ont été donnés ces derniers jours. Témoignages notamment qui ont permis de voir la foi vive qui dépasse tout genre d'affliction et le désir de demeurer pour servir et donner une contribution à la réconciliation et à la reconstruction. La Syrie, on l'a vu, a été largement abordée par les participants à cette réunion de la ROACO. Dans ce conflit, les chrétiens sont pris entre deux feux, certains sont tentés de prendre les armes, d'autres préfèrent une dictature qui assure leur sécurité. Dans ce contexte trouble et violent, les chrétiens peuvent-ils jouer le rôle de passerelle entre les anti et les pro-Assad? Nous avons posé la question à Mgr Zenari, le nonce apostolique à Damas, et présent à Rome ces jours-ci pour participer à l'assemblée de la ROACO.
Leur vocation a toujours été leur vocation de faire des ponts entre les différentes communautés, déjà avant les conflits. J'ai visité avant les conflits, les années passées, différents villages où il y a des communautés chrétiennes et il y avait pas mal de villages où les chrétiens vivaient ensemble avec les musulmans, avec les sunnites, avec les alaouites, avec les druzes. Et ce que j'ai remarqué et ce que tout le monde dit, ces villages mixtes de chrétiens et d'autres confessions religieuses vivent en paix. Ils ont reconnu l'identité des chrétiens d'être d'hommes, des personnes de paix. On peut vivre ensemble avec eux, ils ne sont pas fanatiques. Et je dirais cette tâche, cette mission de faire des ponts de réconciliation et surtout venir maintenant quand il y a beaucoup de blessures, de la haine qui monte. Alors, je dirais, c'est la vocation des chrétiens de chercher, de faire des ponts. Et ils sont très appréciés. Et leur présence sur place, j'ai remarqué que soit les chrétiens, soit les musulmans, se sentent réconfortés quand ils voient la présence d'un prêtre, d'une religieuse qui vit avec eux. Ça vaut comme donner, ou plus que donner du pain et donner des médicaments. La présence est une plus-valeur incalculable. J'espère que ça va, leur présence, être soutenue et continuer.
Et Monseigneur Zenari, comment on peut imaginer, comment vous imaginez le futur de la Syrie?
Bon, il faut avoir de l'espoir avec la prière, avec la foi en Dieu, la confiance en Dieu, parce que si on regarde en bas, il n'y a pas tellement parfois de quoi avoir de l'espoir. Il faut un peu élever les yeux et nous approprier d'une arme très très puissante que je dis, comme chrétien, nous avons l'arme de la prière. Et nous croyons aussi, il faut prier, et je crois parfois, même ensemble, je vis aussi en Syrie, parfois il y a des moments ensemble avec les chrétiens et les musulmans pour la prière. Et il ne faut pas oublier cet aspect que nous avons besoin de l'aide de Dieu, parce que vraiment la catastrophe qui est survenue avec ces conflits est grave, mais il ne faut pas oublier que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, a vécu toutes ces expériences de difficultés, de souffrances, et il connaît bien notre Dieu, ce que nous vivons, et nous faisons confiance en lui, en Dieu, avec la prière pour la paix et pour la réconciliation.
Monseigneur Zenari, nonce apostolique à Damas, au micro de notre confrère italien Salvatore Sabatino. Autre personnalité présente à cette réunion, Monseigneur Ibrahim Isaac Sidrak, le patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques. Venu présenter la situation des Coptes en Égypte, le patriarche, élu depuis 3 mois seulement, évoque les principaux défis rencontrés aujourd'hui par l'Égypte, c'est-à-dire l'insécurité, la pauvreté et l'ignorance.
On essaye de donner une idée sur la situation politique ou la situation en Égypte aujourd'hui, encore en général, et puis la mission de l'Église, parce que les agences des aides humanitaires veulent savoir le fondement de ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe en Égypte, parce qu'à travers les journaux et les informations, on parle beaucoup de choses toujours négatives, mais on ne donne pas le visage plus positive encore.
Vous avez parlé des 3 problèmes de l'Égypte en ce moment, l'insécurité, la pauvreté et l'ignorance. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu ce que vous voulez dire par là?
Oui, la pauvreté sans doute, parce qu'il n'y a pas de production, on ne travaille pas. Malheureusement, il y a aussi, je ne sais pas, le tourisme qui était un domaine très important en Égypte. Donc il ne fonctionne pas à cause de l'insécurité, le désordre aussi, la peur. Les touristes ne viennent plus. Et puis, les Jésus ne travaillent pas. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la pauvreté à la fin. Et on va à mendier des autres.
Et l'ignorance?
L'ignorance, toujours. Il y avait depuis longtemps, il y avait cette ignorance. Mais pas seulement ne pas savoir lire et écrire, mais ne pas savoir aussi réfléchir et penser. C'est ça aussi qu'on cherche de faire, parce que même ceux qui savent lire, ils ne sont pas capables de réfléchir, d'avoir une propre attitude.
Qu'est-ce que la révolution égyptienne a changé pour les chrétiens? Est-ce que vous diriez qu'il y a un avant et un après révolution pour les chrétiens?
Bien sûr. Je peux dire une seule chose. La psychologie des Égyptiens est changée. Ils n'ont pas peur comme avant.
Comment ça se voit?
Ça se voit pas, parce que quand il y a, par exemple, des manifestations, on va, et quand il y a à exprimer leur propre opinion, ils le font sans avoir peur, même contre le gouvernement.
Qu'en est-il de la situation politique ? Est-ce qu'elle vous préoccupe ? Il y a une manifestation le 30 juin qui est prévue contre le président Mohamed Morsi. On dit que le pays est en cours d'islamisation. Quelles sont vos craintes ? Quels sont vos espoirs ?
Le 30 juin n'est pas contre l'islam ou l'islamisation, mais il est contre le gouvernement et la présidence des frères musulmans, parce que après un an, les jeunes surtout, se sentent volés. Ils disent que la révolution a été volée. Donc ils veulent la récupérer et donc ils veulent demander au président de quitter et de faire des élections anticipées.
Toute dernière question, ça fait 3 mois que vous avez été élu patriarche des Coptes catholiques d'Égypte. Un petit bilan peut-être de ces 3 premiers mois ?
J'essaye, comme tout le monde, de découvrir un peu les domaines. Je savais beaucoup de choses en tant qu'évêque, mais ces jours-ci, c'est en tant que patriarche responsable, donc j'apprends beaucoup de choses. Puis en parlant avec le peuple aussi, je reçois les commentaires. Donc tout ça, ça accumule un peu l'expérience. J'espère, sans doute, on a besoin de la grâce de Dieu. Et puis le travail des confrères et des fidèles aussi, sans doute, surtout les jeunes.
Monseigneur Ibrahim Isaac Sidrac, au micro de Manuela à Fidji. On termine cette large page consacrée au Proche-Orient via la réunion de la Roaco avec cette nouvelle venant de Gaza. Le responsable des écoles du patriarcat latin de Jérusalem lance un appel à l'aide en faveur des écoles chrétiennes de Gaza. Le père Faisal Ijazin, interrogé par l'agence Fides, réclame en effet la mobilisation internationale du monde de l'instruction pour défendre 5 écoles chrétiennes présentes dans la bande de Gaza. Elles risquent, selon lui, d'être lourdement pénalisées par les récentes mesures adoptées par le gouvernement dominé de manière hégémonique par les islamistes du Hamas. Une norme du ministère de l'instruction locale, dont l'entrée en vigueur est prévue pour septembre prochain, établit en effet que désormais, l'ensemble des classes de tous les établissements d'enseignement, quel que soit leur niveau, devra obligatoirement être réparti par sexe, alors que les enseignants ne pourront plus tenir de leçons à des élèves du sexe opposé de plus de 9 ans. La situation des chrétiens au Proche-Orient sera sans aucun doute abordée lors de la rencontre des nonces apostoliques qui se tiendra vendredi et samedi au Vatican. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la foi et voulue par Benoît XVI. Ce sera l'occasion pour ces diplomates du Saint-Siège d'échanger leurs expériences et d'approfondir le sens de la mission des représentants pontificaux dans les circonstances actuelles. Une semblable rencontre s'était tenue il y a plus de 10 ans. C'était à l'issue du jubilé de l'an 2000. Ces conflits montrent bien une chose que répète inlassablement l'Église, le dialogue est la seule issue. Un dialogue qu'entretient avec ferveur le cardinal Jean-Louis Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il accueillait cette semaine au Vatican un colloque entre chrétiens et musulmans dont le thème était « Les croyants face au matérialisme et au sécularisme dans la société ». 2 délégations de 12 membres chacune ont réfléchi entre autres sur la perte du sens du religieux commun aux sociétés multiculturelles occidentales. Le cardinal Torrent revient sur ces 2 jours de rencontre au micro d'Hélène Destombes.
On ne peut pas séparer la vie religieuse de la vie normale, parce que le croyant est croyant et citoyen. Il n'est pas croyant ou citoyen, il est croyant et citoyen. Donc il y a une complémentarité entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel de la réalité. Et je crois que notre responsabilité de croyant, c'est de concilier les deux. Ensuite, nous avons regretté ensemble que la société, surtout les jeunes générations, aient perdu leurs racines spirituelles. Donc un effort doit être fait pour donner un peu de la possibilité à l'humanité d'aujourd'hui d'avoir une vie intérieure.
Quelles sont les pistes, les actions concrètes qui ont été proposées au terme de cette rencontre ?
L'aspect concret, la nécessité de l'enseignement, de la formation religieuse des jeunes. Parce que souvent, tous les problèmes naissent de l'ignorance. Vous savez, c'est toujours ce que j'ai dit. Nous avons réussi à éviter le choc des civilisations, évitons le choc des ignorances. Donc, dans l'enseignement de l'histoire, dans les livres d'histoire, comment présenter avec respect et exactitude la religion de l'autre.
Est-ce que la question de la liberté religieuse a été abordée ?
Oui, la question de la liberté religieuse a été abordée. La liberté de culte, la liberté de religion. Et évidemment, c'est avec beaucoup de prudence, parce que ce sont des sujets qui sont très délicats, mais on ne peut pas non plus les passer sous silence. Donc je crois que tout le monde a écouté, tout le monde est bien conscient des difficultés. Mais il n'y a pas pour le moment de décision spectaculaire à ce sujet-là.
C'était donc la 19e rencontre de ce type. Au terme de cette nouvelle édition, peut-on parler de véritables pas accomplis et quel est le long chemin qui reste encore à parcourir ?
Le dialogue interreligieux est devenu très à la mode. Et je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Beaucoup font la même chose. Je crois qu'il faudrait peut-être modérer un peu notre appétit et avoir des idées un peu plus claires sur le dialogue interreligieux. Ce qui ressort dans le fond de toutes ces réunions, c'est que on ne se connaît pas encore assez. Donc il faut toujours continuer à se connaître, à se respecter. On a l'impression qu'on a fait beaucoup de progrès, mais en fait, quand on discute un peu en profondeur, on s'aperçoit que notre connaissance mutuelle est très superficielle encore, aussi conditionnée par les événements politiques, par le terrorisme, etc. Mais la grande souffrance, si on peut dire, que l'on éprouve quand on pratique ce dialogue interreligieux depuis des années, c'est que tous les petits résultats que nous avons pu obtenir au prix de grands sacrifices ne sont jamais passés au niveau de la loi, au niveau de l'administration, au niveau de la rue. Donc ça reste toujours, le dialogue interreligieux reste encore une activité réservée aux élites. Et il faudrait trouver le moyen de faire passer ce patrimoine modeste, mais enfin qui existe, des élites au niveau de la rue, et surtout de l'enseignement des écoles, universités, dans l'administration, dans la formulation des lois, etc.
C'est là qu'est le véritable défi.
Oui, oui, c'est très difficile parce qu'on n'a pas la solution miracle.
Le cardinal Le Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. La dignité humaine et la famille doivent être au cœur des préoccupations de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Le pape François, lors de sa rencontre au Vatican avec les participants de la 38e conférence de l'organisation, a été très clair. La personne et la dignité humaine courent le risque de se transformer en une abstraction devant notamment la guerre et la spéculation financière. Il a également déclaré que la famille est le lieu principal de la croissance de chacun. Nul besoin donc de se cacher derrière la crise économique actuelle pour négliger ces deux aspects. Les précisions de Bernard de Cotigny.
Nous sommes sûrs de deux choses. La production actuelle de nourriture est suffisante et la situation que nous vivons est la conséquence d'une crise de conviction et de valeur. À partir de ce double constat, le pape rappelle à la FAO qu'il ne s'agit donc pas de produire plus, mais bien de faire en sorte que tous puissent bénéficier des fruits de la terre au nom d'une exigence de justice, d'équité et de respect due à tout être humain. Le pape François vise ainsi les intérêts économiques myopes et la logique du pouvoir de quelques-uns qui génèrent pauvreté et exclusion. Reconnaissant que son propre destin est lié à celui des autres, le pape demande à la FAO une ouverture du cœur, ce qui signifie abandonner la tentation du pouvoir ou de posséder plus, ou de rechercher son propre intérêt au lieu de servir la famille humaine. Cet appel, le pape l'élargit aux États de façon à ce que les relations internationales rétablissent cette référence aux principes éthiques qui les régulent et qu'elles redécouvrent l'esprit authentique de solidarité qui peut rendre incisive toute l'activité de coopération. Dans ce contexte de crise, le pape François salue la décision de dédier l'année prochaine à la famille rurale, car les liens familiaux sont essentiels pour la stabilité des relations sociales, pour la fonction éducative et un développement intégral.
Bernard de Cotigny. Et puis dernière information concernant le pape. Pour prier le Notre Père, nous devons avoir le cœur en paix avec nos frères. C'est ce qu'a affirmé le pape François dans son homilie matinale en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. La prière, ce n'est pas de la magie, a-t-il expliqué. Tu dois prier le Père, celui qui t'a donné la vie. Si nous ne commençons pas cette prière par cette parole, dite avec le cœur, nous ne pouvons pas prier en chrétien, a-t-il averti. Et nous disons notre Père, car nous ne sommes pas fils uniques. Et si je ne peux pas être frère, alors il sera difficile d'être le fils de ce Père qui est Père de tous. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va et notre page Facebook Radio Vatican en français. En attendant, on se retrouve demain, même lieu, même heure.